La vie d'Annie. Peinture, ciné, bouquins et autres balades culturelles au gré de la vie et des envies d'Annie. Du pluie, bien sûr.
Dans la maison de François Ozon. Dans la maison. Quelle maison? La maison de Claude, qu'on ne voit jamais. Je parle de la maison, bien sûr, sauf à la fin. La maison des Rafa, Français moyens qui ont un peu les moyens. La maison, ou alors plutôt non, l'appartement de Germain, Monsieur Germain, professeur de lycée, de son état, prénommé Germain, donc ce qui fait Germain, et de son épouse, gérante d'une galerie d'art contemporain. L'histoire est très simple, elle tient en deux lignes. Un professeur se lie avec un de ses élèves parce qu'il lit avec une curiosité grandissante les copies de ce fameux Claude, Claude qui s'immisce dans la maison d'un de ses camarades à qui, accessoirement, il donne des cours de maths, je crois. Vous me suivez? Bon. En tout cas, tout ça, ça fait plus de deux lignes, hein, le pitch. Alors, comme Germain, nous sommes dans l'attente du feuilleton. Qu'est-ce qui est vérité dans le film? Qu'est-ce qui est mensonge? Ce qu'on voit, ce que Claude, le héros de seconde, nous raconte, Claude est un peu inquiétant quand même, hein, ce qu'il nous raconte à nous, ce qu'il raconte à Germain, ou ce qu'on nous donne à voir, manipulation en tout genre. Osons les hypothèses, osons comme François Ozon. Hein, l'éclectique metteur en scène qui a fait, entre autres, Potiche et Sous le sable. Est-ce le hasard si le prof se fait assommer par un exemplaire du Voyage au bout de la nuit de Céline que Lucchini lit chaque soir au théâtre à Paris? Est-ce le hasard s'il lit à ses élèves une fable de La Fontaine? Est-ce le hasard si le lycée s'appelle Gustave Flaubert et qu'on y porte un uniforme? Je précise que c'est un lycée public. Je ne sais pas si tout est l'effet du hasard, mais je sais seulement que j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs, le scénario un peu emberlificoté et les multiples hommages d'un cinéaste inspiré, notamment à Hitchcock, Fenêtre sur cour, surtout pour la fin, à la comédie américaine de l'âge d'or, qu'on voit surtout dans le film d'Ozon, dans les rapports entre le professeur Germain et son épouse Jeanne, et même si on va plus loin, des références tout à fait explicites avec le théorème de Pasolini. Vous savez, l'histoire du jeune homme qui va séduire toute une famille. Bon, là, c'est Claude le séducteur, hein. J'ai bien aimé aussi, vraiment, l'ironie légère et cruelle de la peinture d'une famille dite « normale ». Vous en conviendrez, c'est un mot très à la mode. Et là, je cite « le parfum de femme », encore une référence à Gassman, « d'une famille moyenne qu'exhale Emmanuel Seigné, impériale et opaque, dans la femme d'intérieur, donc, qu'observe Claude, femme obsédée par la décoration d'intérieur, justement. Elle fait que ça dans le film, de lire des magazines d'intérieur. Après avoir réfléchi sur le film, contrairement à mon entrée en matière, alors j'ai découvert que le pitch n'est pas simple. On prend un chemin, on se trompe, on part en arrière, on repart, on s'arrête, on se pose la question. Un vrai labyrinthe où nous entraîne Anne Ozon, séduisant, machiavélique et qui nous interpelle. Alors, est-ce que Claude est vraiment amoureux d'Esther ou Germain l'est-il par l'image que son élève lui en donne? La vie des Rapha, père et fils, ils s'appellent tous les deux Raphaël, hein, est-elle réelle ou est-elle un pur fantasme? Claude est-il un ange ou un démon? Le jeune Rapha, copain de Claude, est-il si nié qu'il paraît? Et son père, le vieux Rapha, aussi bof? Je sais pas. Je ne peux pas répondre à ces questions. Simplement, je dis que le film m'a paru ambigu, enchanteur, cruel, tendre. Et surtout passionnant. Alors, je paraphraserai ce que Claude écrit à la fin de chaque copie où il décrit la vie normale des Rapha, c'est-à-dire, ouvrez les guillemets, à suivre, et on les ferme. Mais pour moi, c'est un conseil. À suivre le film. Alors là, Amour de Haneke, c'est le titre. Le titre du film, et ça devait s'appeler « Ces deux-là ». Un titre, donc, un mot qui dit l'essentiel. L'amour de deux personnes qui se sont aimées longtemps, car elles sont vieilles, et s'aiment encore, même quand l'une est atteinte d'une maladie qui fait qu'elle n'est plus elle-même. Alors, je vais d'abord faire état de quelques réactions négatives. C'est macabre, c'est indécent de montrer la maladie. Mais pourquoi des films comme ça? C'est toujours chez des bourges, hein? Bon, moi, je ne vois pas vraiment pas l'intérêt de montrer des corps complètement décrépits et vieux, mais c'est trop dur. Alors, en plus, ils sont vieux, mais vachement vieux, mais c'est morbide. Bon, moi, en tout cas, là, je cite toujours, hein, bien sûr. J'ai pas compris l'histoire du pigeon. Mais c'est un film déprimant, mais c'est un film sadique. Voilà ce que j'ai entendu, mais j'ai aussi entendu... Moi, je n'irai pas le voir. Bon, ça clôt tout de suite le sujet, hein. Car je travaille, alors, un, à l'hôpital, je travaille à la maison de retraite, où je travaille avec des gens âgés. On m'a dit aussi, je n'irai pas le voir, car mes parents sont vieux. Et moi, je n'irai pas le voir non plus, je parle pas de moi, hein, bien sûr. Car bientôt, je serai vieux ou vieille. Eh bien, n'y allez pas, mais laissez-moi vous dire une chose. C'est un film. Un film, ce n'est pas de la télé-réalité. Un film, c'est du cinéma, et en l'occurrence du très, très grand cinéma. Bon, tout le monde a parlé des acteurs, les acteurs sont merveilleux, il n'y a aucun pathos, ils nous touchent, ils nous émeuvent. Et parce que je sais que Haneke avait dit, il y a eu beaucoup d'interviews après La Palme, qu'Haneke avait dit à Emmanuel Riva, surtout pas de larmes, il n'y en a pas. Hein. C'est un film, bon, je vous le disais, qui a obtenu La Palme hein, à Cannes et qui a obtenu plein de prix dans des festivals internationaux. C'est un film qui vous ravage, c'est un film qui vous transporte, un film qui touche. Parce qu'il parle de ce que notre vie a de plus tragique et de plus intime. Voilà, hein, la vie, la mort. Alors au début, bon, on voit dans une salle de concert Trintignant et Riva, Emmanuel, alias Georges et Anne, spectateurs d'un concert dans un théâtre. Ils sont heureux, ils sourient, ils s'aiment. Et nous les regardons longuement, comme si on savait, on devinait l'imminence de la maladie, comme si ce moment de bonheur partagé et unique devait être le dernier. Quand ils rentrent à l'intérieur de l'appartement, bon, le premier malaise de Anne, ce sera... Un combat feutré, un combat avec des armes dérisoires, un combat pour la vie et pour servir cette survie et la violence qu'elle nécessite. Haneke a choisi une mise en scène simple, chaque moment de la vie quotidienne est étiré à l'extrême. La caméra est plantée dans une pièce, dans un coin, et les plans séquences durent et nous montrent l'aventure des petits gestes quotidiens. Manger, boire, se laver, tout ça, à nous, ça semble très simple. Mais Anne est handicapée et chaque action devient un Everest et Georges trouve le moyen de contourner la montagne pour la gravir, parfois même par le jeu. Ces deux-là, dont je vous rappelle que c'était le titre prévu par Haneke, et je pense que c'est les acteurs qui l'ont fait changer, ces deux-là donc se sont aimés à 20 ans et s'aiment encore à 80, ils ont tout partagé. Leur vie, leur fille et la musique. Au moment de ce que Beauvoir appelait, en parlant sans doute de Sartre, la cérémonie des adieux, ils s'aiment encore, ces deux-là se le montrent, se le disent, même si c'est la dernière fois. Bien sûr, alors, suivre le conseil de Trintignant quand il monte sur la scène à Cannes, au festival, hein, je parle, et cite Prévert, ouvrez les guillemets. Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple, fermez les guillemets. Donc, ce conseil n'apparaît pas comme une évidence quand on voit le film. Mais oui, pour certains, la miraculeuse sobriété, l'émotion tenue à distance, la beauté des visages, si, la force du récit et l'incarnation des acteurs, tout ça fait croire, une fois de plus, au cinéma. Alors, on n'a pas besoin d'essayer. Là, on est heureux.